On est toujours sur Red Cross et nous sommes en présence d'étudiants en formation d'ergothérapeute et une formatrice ergothérapeute.
Marielle.
Je vais me tourner vers toi. Je vais te laisser te présenter ton prénom, ton âge et savoir ton niveau de formation.
Ok, bah déjà bonjour à tous. Donc, je m'appelle Géraldine, je suis du coup en troisième année d'ergothérapie et j'ai 22 ans.
D'accord, bonjour.
Bonjour, moi c'est Mathias, je suis en première année d'ergo, ici à Tours justement.
Bonjour Mathias. Mathias, comment tu as fait, quel est ton parcours pour arriver jusqu'à la formation d'ergothérapeute ?
Alors moi j'ai fait 2 ans de STAPS avant, parcours activité physique adaptée et santé, et j'ai découvert un peu par hasard l'ergothérapie, c'est-à-dire j'ai rencontré une ergothérapeute qui exerce en région parisienne, avec qui j'ai découvert un peu ce qu'elle faisait et je me suis dit tiens, c'est pas mal, ça peut être pas mal comme futur métier.
Tu peux peut-être nous décrire un peu ce qu'ergothérapeute, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc nous dire peut-être la différence avec la kinésithérapie déjà, et quelle est l'essence du métier d'ergothérapeute. Si Géraldine veut bien l'aider, il n'y a aucun problème.
Je pense que je te laisse la main pour cette question, qu'en première année, ça peut être un peu compliqué encore à savoir bien discerner
les
choses.
C'est pas faux.
Effectivement, donc c'est vrai qu'en première année, on nous dit, bon, bah, vous savez, vous allez devoir expliquer le métier d'ergo, et c'est une grosse chose à apprendre. Donc chacun a sa définition du métier. Moi, je dirais que pour faire simple et que ça puisse parler à tout le monde, dès lors qu'une personne rencontrera du coup des difficultés pour réaliser ses activités de vie quotidienne, donc quand on parle d'activités de vie quotidienne, bah voilà, c'est tout ce qui est soins personnels, prendre sa douche, cuisiner, même aussi aller au travail, réaliser son travail ou aussi faire des activités de loisirs. Donc dès lors qu'il y aura des difficultés aussi bien de l'ordre physique, psychologique ou social, eh bien en fait l'ergothérapeute du coup peut intervenir pour essayer du coup que la personne puisse réaliser ses activités de façon indépendante et autonome.
Oh, c'est hyper clair. Il y a de la formation derrière. Mathias, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, franchement, c'était très clair.
Merci.
En fait, est-ce que si on dit que finalement vous cherchez à compenser les situations de handicap ?
Je dirais que oui, c'est le bon mot. En fait, on intervient sur le pôle des 3 R, du coup de la rééducation, réadaptation et réinsertion. Voilà.
D'accord.
Je me souviens d'un échange avec un étudiant d'ergothérapeute qui m'avait dit une phrase qui était assez marquante par rapport à votre métier, que quand on était en situation de handicap, c'était pas la personne qui n'était pas adaptée à l'environnement, mais l'inverse, l'environnement qui n'était pas adapté à la personne qui était en situation de handicap. Et je trouvais que c'était un très beau résumé du coup de votre métier.
Exactement.
Et comment on passe de STAPS, parce que je crois qu'il y en a pas mal qui font ça, hein. Pourquoi on passe de STAPS à ergothérapeute ?
Alors déjà, il y a des passerelles qui existent hein, dans certains endroits. Là où j'étais à Limoges avant, il y avait une passerelle qui existait, notamment. Mais moi, j'ai choisi de changer de voie parce que le débouché de cette licence STAPS à PASS, je voyais pas où j'allais en fait. Alors qu'avec l'ergothérapie, j'ai vraiment une vision un peu plus concrète de ce qu'est le métier d'ergothérapeute, ce qu'il fait, vraiment c'est... Pour moi, c'est quelque chose de primordial de savoir où aller, en fait.
Oui, puis en STAPS, vous avez quand même des questions de mécanique, de biomécanique, je ne sais pas. Enfin, une approche sur le corps humain, sur le fonctionnement du corps.
Alors, il y a quand même, parce qu'il y a les activités sportives dedans, donc il faut comprendre le corps humain. Donc, on va retrouver des choses qu'on retrouve en ergothérapie, tout ce qui va être anatomie, biomécanique, physiologie. Mais vraiment, là, c'est plus acté sur les activités de la personne. Donc... ces activités de tous les jours qui sont vraiment primordiales, très parlantes pour la personne.
D'accord.
Et je vais me tourner vers du coup ta collègue de troisième année, Géraldine. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Alors moi j'ai un petit parcours un peu similaire. Moi du coup j'ai fait une première année de médecine en PACES à Tours. Je savais que je voulais exercer dans le médical, mais je ne savais pas encore vers quel métier. Il s'est avéré que j'ai échoué et en fait c'était une bonne nouvelle parce que heureusement ça ne me convenait pas du tout. Du coup j'ai atterri en STAPS du coup à Orléans et j'ai pu accéder à la passerelle. Après se poser la question entre les métiers du paramédical, est-ce que kiné, psychomote, ergo, je ne savais pas. Mais en relisant, j'avais déjà fait un stage de 3e auprès d'une ergothérapeute dans un EHPAD et je m'étais rendu compte que c'était un métier qui me plaisait. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris que je pouvais intégrer la formation d'ergothérapeute à Tours en passant par STAPS, j'ai foncé quoi.
Merci. Comment se déroule votre formation ? Par quel biais on peut y accéder ? À savoir s'il faut un niveau bac ou sinon ?
Parcoursup ou pas
oui,
Parcoursup ?
C'est essentiellement du Parcoursup, donc c'est accessible après dès le bac en fait. Après, il y en a qui viennent, qui ont fait une licence avant, que ce soit de n'importe quel domaine. Il y en a même des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Je prends l'exemple de ma promo actuellement. On a un policier, une juriste qui sont en reconversion professionnelle. Et donc, vraiment, tout le monde peut y accéder, en fait, au final.
Marielle, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le profil des étudiants qui rentrent en ergothérapie, puis comment ils font ?
Alors maintenant, on passe par Parcoursup. Et c'est surtout des profils d'étudiants, comme l'a dit Mathias, qui ont fait quelque chose après le bac. Alors, on peut y accéder directement après le bac. Mais les promos sont plutôt constitués de personnes qui ont fait une année de fac ou en tout cas quelque chose après. Il y a aussi deux places qui sont sur dossier, qui sont pour des gens qui ont déjà une formation diplômante au moins du niveau licence. Donc c'est les deux personnes en reconversion professionnelle. Voilà, et donc on a des promos de 32, donc 30 places par Parcoursup et deux places sur ces dossiers. Voilà.
Combien recevez-vous de dossiers par concours ?
L'année dernière, on a eu 550 dossiers sur Parcoursup et une quinzaine de dossiers pour les articles 32, donc les personnes en reconversion professionnelle. Et on est remonté place 63 pour Parcoursup.
Mathias, pourquoi choisir cette formation ?
Bah, moi, je voulais quelque chose quand même qui reste proche de l'humain, d'être dans le social, tout ça. Et mon objectif serait peut-être travailler avec les enfants. Et donc, du coup, pouvoir aider les enfants en difficulté, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Déjà, rien que pas forcément des personnes en difficulté. J'ai fait dans des associations, j'ai aidé à des entraînements. Mais en soi, c'est aider la personne à évoluer. Donc, c'est quelque chose qui est primordial pour moi, d'aider quelqu'un à s'améliorer, à s'entraîner, dans tout, quoi.
Et toi, Géraldine ?
Moi, c'est un petit peu pareil, c'est les mêmes raisons. Je voulais faire un métier dans le pour aider les autres. En fait, j'ai besoin de contact humain. Je suis quelqu'un de nature assez sociable, donc j'avais vraiment besoin de parler avec les gens, d'aider les gens. Et moi, je me dirigerais peut-être plutôt vers une pratique gériatrique. Je suis attirée vers ce public. Voilà, après, on a chacun nos raisons. Pourquoi ?
Mais il y a quelque chose que je comprends pas, parce que vous faites partie des professions médicales ou paramédicales, mais vous voulez faire du social. Vous pouvez m'éclairer ?
Pour moi, c'est pas parce qu'on est du coup dans le paramédical qu'on fait pas...
Vous êtes enregistré dans le secteur paramédical.
Oui, mais du coup, on est aussi dans le secteur sanitaire et social. Donc par le contact avec les autres, oui, on fait du soin à la personne, aussi bien physique, mais aussi psychologiquement, ça aide.
D'accord. En fait, oui, vas-y, Marielle.
Je vais compléter. C'est aussi un développement de la profession qui a une histoire, donc qui a été historiquement, qui s'est développé les dernières années selon un paradigme biomédical. Donc, dans les centres de rééducation, on a voulu rééduquer les gens. Et puis, en fait, il y a un mouvement des sciences de l'occupation, qui sont les sciences qui régissent du coup notre métier, qui se développe pour plutôt comprendre la personne dans ses activités et la complexité de ses activités. Et donc, l'activité prend en compte... la limitation d'activité, elle prend en compte la partie physique. Donc, on peut ne pas réussir à faire une activité parce qu'on a un problème physique, mais on peut aussi ne pas réussir à faire une activité parce qu'on a un problème social ou de motivation ou parce que l'environnement n'est pas adapté ou pour tout un tas de causes. Et donc, on intervient sur la cause qui ne permet pas le problème d'activité. Donc, souvent, c'est physique, mais il y a tout un tas de situations dans lesquelles il n'y a pas de problème physique et il y a un problème d'activité. Et donc là, on intervient quand même, puisque le cœur de notre métier, c'est de permettre aux gens d'avoir accès à leurs activités.
Et depuis peu, il y a aussi la pratique de l'ergothérapie communautaire qui aussi, du coup, prend en charge, enfin, des groupes, en fait, voilà, notamment, je pense aux migrants. Ça peut être aussi, nous, en tant qu'ergo, on peut aussi accompagner ce type de public sur un versant beaucoup plus social plutôt que sanitaire. En fait, quand on parle d'ergothérapie communautaire, ce sont du coup des communautés qui n'ont pas forcément de problématiques sanitaires au sens pur et dur, mais plutôt des problématiques, voilà, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Et on peut tout à fait être à même de travailler avec ces populations.
Ok, c'est intéressant parce que quand même vous subissez une sorte de déficit de connaissances. On en parle de plus en plus quand même, des ergothérapeutes dans les médias, etc. Ça se voit de plus en plus. Des fois, on parle de la différence entre un ergo et un kiné. Moi, j'ai même entendu la différence entre un ergo et un éduc. Comment on explique que cette formation ne soit pas si connue que ça, alors qu'elle est quand même particulièrement intéressante ?
Je pense que c'est lié à l'histoire. L'ergothérapie, c'est pas un métier très vieux, donc c'est un métier qui s'est vraiment développé dans les années 60 avec l'ouverture de la première école d'ergothérapie en France. Donc aujourd'hui, on est 15 000 ergothérapeutes en France, ce qui est tout petit comparé aux infirmiers, aux éducs, aux kinésithérapeutes. Donc on est vraiment pas grand, en fait. Ça croît très vite. Il y a 1 000 étudiants qui sortent par an et il y a une très très forte demande sur le terrain. Donc c'est un métier qui va se développer. C'est un métier où aujourd'hui, il y a aujourd'hui 750 offres d'emploi. Aujourd'hui, là, on a rechecké ce matin. Enfin voilà, ça va se développer. Il va y avoir de plus en plus d'ergos. Mais on est tout petit encore, donc c'est normal qu'on ne soit pas encore très connu. Et puis, il y a tout un tas de politiques de santé publique aussi qui sont mises en place en ce moment avec le plan Alzheimer, enfin voilà, tout un tas de plans qui visent à développer des postes d'ergo, des fois en les nommant et des fois sans les nommer. Et donc, voilà, ça va évoluer et ça a déjà beaucoup évolué. Donc, on va grandir, on va être de plus en plus connu, mais il y a encore un peu de temps qui va être nécessaire pour ça.
Je vais revenir peut-être de manière plus pragmatique à votre formation. Comment elle s'organise ? Vous avez des stages ? Combien de stages vous avez durant vos 3 ans de formation ?
Alors du coup, nous avons des stages donc à chaque année de formation. Donc la première année, on a un stage d'un mois qui consiste vraiment à découvrir ce que c'est le métier d'ergothérapeute. Et c'est là qu'on tombe amoureux de ce métier. C'est là qu'on comprend vraiment ce qu'on fait. Ensuite, en deuxième année, on a 2 fois 2 mois de stage, donc 4 mois de stage en totalité sur l'année. Donc c'est des stages qui sont longs. Enfin, globalement, on peut vraiment se rendre compte de ce que fait l'ergothérapeute auquel on suit pendant 2 mois. Donc c'est très très riche. Et pareil, en troisième année, on a aussi 2 fois 2 mois de stage. La petite spécificité du coup de l'école de Tours, c'est qu'en troisième année, on a 2 semaines de stage pré-professionnel où du coup, en tant qu'étudiant, on va dans des services, dans des structures où il n'y a pas d'ergothérapeute et on cherche à savoir du coup si il serait intéressant du coup de monter un poste et de créer un poste dans cette structure, dans ce service. Et ça peut aboutir des fois sur des offres d'emploi.
Bah, j'ai des idées si vous voulez.
Il me semble qu'il y a la possibilité aussi de faire vos stages à l'étranger ou pas ?
Oui, tout à fait possible.
Ouais, du coup, alors non, attention, on n'en dit pas trop puisque tu vas revenir dans un prochain
teaser
bientôt dans l'émission pour nous parler du pôle Erasmus l'Erasmus pour les ergots. Alors
exactement. Alors les ergots, ils peuvent avoir accès à plusieurs choses. Ils peuvent faire des stages à l'étranger, donc en Europe ou ailleurs. Ils peuvent faire un semestre aussi à l'étranger. Pour l'instant, on a eu 2 étudiants qui ont fait un semestre à Bruxelles. Voilà, dans une école partenaire. Et puis on a des étudiants qui participent à un programme qu'on a monté avec l'Université de Berlin, qui est également ouvert aux assistants sociaux, qui se déroule sur 10 semaines, où l'objectif c'est de monter un projet favorisant l'intégration des migrants sur le marché du travail européen. Et donc là, c'était la semaine dernière, les étudiants français étaient à Berlin et sont toujours à Berlin, ils reviennent demain.
Ok,
très bien, merci.
Le futur,
oui. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Donc, je sais que Géraldine, tu nous as évoqué le fait de travailler auprès de personnes âgées. Est-ce que tu peux nous permettre de comprendre dans quelle institution, quelle association ?
Alors, actuellement, je ne sais pas. la question se posera vraiment concrètement dans 6 mois, quand il faudra sortir de l'école. Je verrai en fonction des offres d'emploi qui pourront s'offrir à moi. Après, je sais que peut-être que mon stage pré-professionnel va se faire du coup dans un service de soins palliatifs, donc peut-être que ça pourra aboutir sur quelque chose, sur un poste, je l'espère. Après, voilà, j'ai pas encore d'idée précise, mais tant que c'est avec des personnes âgées, moi, tout me va.
Merci. Et toi, Mathias, donc c'est auprès des enfants ?
Alors oui, pour l'instant, parce que pareil, hein, moi je suis qu'en première année, donc ça a encore besoin d'être mûri, développé, tout ça. Mais ouais, le public des enfants, c'est vraiment depuis un moment que j'y réfléchis. Donc à voir. Après, où ça, je ne sais pas. Pareil, en 3 ans, ça peut vite changer. Donc on verra ce que ça donne.
Très bien, je vais me tourner vers, du coup, autour de notre table, on a une future étudiante en ergothérapie qui est intéressée par la formation et qui est venue spécialement pour s'informer à nos JPO. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Naïs, je suis en première générale et du coup, je suis venue aujourd'hui découvrir ce métier, enfin, plus en... d'information exactement, et du coup pour l'instant oui ça m'intéresse, je voulais me tourner vers les métiers de la santé, mais du coup plus particulièrement l'ergothérapie, j'ai fait un stage de 3e en ergothérapie et ça m'a plu, du coup je voudrais...
C'était où exactement ton stage de 3e?
En Eure-et-Loir.
Mais dans quel service?
Dans l'ergothérapie exactement.
En libéral.
Voilà, en libéral.
Ah ça. Oui, parce que les ergothérapeutes peuvent exercer en libéral aussi.
Oui.
Oui, oui, tout à fait.
Même dans le cabinet, il y avait aussi une psychomotricienne, donc j'ai pu aussi découvrir ces deux métiers. Là, aujourd'hui, j'en sais plus. Par exemple, pour Parcoursup, découvrir ce métier, comment accéder à ce métier.
Voilà. Est-ce que tu as encore des questions?
J'ai fait le tour.
T'as eu pas mal d'infos aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
On a été très efficace alors.
Ouais.
Exactement.
Vous aimez ça être efficace. Hein. Et alors, je sais plus quel niveau de diplôme ça apporte la formation ergothérapeute, mais il me semble que vous avez un programme assez chargé.
Oui, tout à fait. Donc ça apporte un niveau licence, donc c'est 180 crédits ECTS. On a effectivement une formation très 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 chargée, donc il y a une petite réforme qui est en cours pour demander à passer à 5 ans. C'est pas acté, c'est pas accepté, mais en tout cas on travaille dessus au niveau national pour faire cette demande de façon concrète. On a des emplois du temps qui sont très chargés, qui sont un minimum de 35 heures semaine pour les étudiants. Donc c'est vraiment beaucoup. Il y a pas mal de travail personnel et puis c'est très condensé en fait. Donc voilà, c'est une formation très, très exigeante en fait en termes d'investissement personnel. Je pense que les étudiants pourront tous vous confirmer ça.
Oui, je crois. Mais enfin, ils nous confirmeront aussi qu'il y a une grosse vie de promo hein, chez les ergots.
Oui, on est souvent autour du baby-foot.
Voilà.
Oui.
Ou place plume.
Et d'ailleurs, ils détiennent le titre des gagnants du baby-foot en IRC. J'espère que vous le garderez pour l'année prochaine.
Non, on finira par vous détrôner, c'est sûr.
On compte bien le garder quand même. Ouais. On a de bons phénomènes au baby-foot. On s'entraîne assez dur chaque jour.
En grande concurrence avec les assistants de services sociaux.
Ouais, on va pas lâcher l'affaire.
Non. Pour conclure, je vous remercie pour votre intervention. Et est-ce qu'on aurait une dernière question?
La question de Mélissa?
Puisqu'on me tend le micro, je ne vais pas bouder mon plaisir. Donc il était question tout à l'heure d'ergothérapie communautaire. Donc on entend bien l'idée d'adapter ou de rendre possible l'activité donc, pour des personnes migrantes. Donc on peut imaginer le handicap entre guillemets linguistique, le manque de moyens financiers. Mais est-ce que vous voudriez nous donner des exemples concrets en fait? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous inventez pour ces personnes? Comment est-ce que vous les accompagnez à une activité? Est-ce que vous créez des activités? Est-ce que vous voulez nous donner des exemples?
Là, moi, j'ai un exemple en tête, mais du coup, moi, je prenais part au projet du coup Berlin il y a l'année dernière. Et du coup, ce projet était de l'ergothérapie communautaire parce que du coup, c'était de la réinsertion professionnelle du coup des personnes migrantes. Donc, ça peut tout à fait être d'accompagner du coup les personnes à retrouver un travail après en arrivant en France ou des choses comme ça.
Je peux compléter?
Et très concrètement, du coup, ça peut être quelqu'un qui arrive en France, donc qui va avoir un suivi par une assistante sociale, qui va l'aider à trouver les interlocuteurs pour les papiers, etc. Donc ça va être plutôt fait par les assistants sociaux. Mais elle va arriver dans une culture pas forcément connue, avec des habitudes de vie pas forcément connues, des produits au supermarché qui sont pas forcément connus, un système de fonctionnement pour l'école qui est pas forcément connu. Et en fait, ça va consister surtout à permettre les activités de base, qui pour nous paraissent hyper simples, mais typiquement la cuisine, c'est des gens qui ne connaissent pas les produits en fait et qui ne lisent pas la langue. Donc quand ils sont au supermarché, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est quoi les recettes qu'ils font? Comment ils s'organisent? Ils ont une vie de famille? Ils ont un appartement organisé d'une certaine façon? Il peut y avoir des conflits avec les voisins? Enfin, des trucs hyper pratico-pratiques qui sont dus à en fait la situation de migration, quoi. Et qui sont du coup, nous, on peut les accompagner sur ces choses du quotidien, à les aider à trouver des solutions et à comprendre les enjeux de ces situations qui peuvent paraître incompréhensibles au premier abord, quoi.
C'est très, très, très intéressant.
Alors, juste, excusez-moi, mais en fait, Radio Campus, c'est des radios étudiantes, donc des gens peut-être qui sont complètement étrangers à votre univers de compétences. Et donc, sur l'idée de connaître les produits, des choses comme ça, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Un atelier cuisine, accompagné au supermarché, qu'est-ce qui est possible?
Exactement. Donc, aller avec les gens au supermarché, leur apprendre, en fait, leur permettre d'apprendre les noms, de repérer, de trouver des stratégies pour repérer ce que sont les différents produits, faire un atelier cuisine avec des produits peut-être qu'ils ne connaissent pas, leur dire qu'il y a des trucs ça suit comme ça et d'autres pas comme ça, enfin des choses très concrètes, quoi, en fait. Et puis monter des groupes aussi de personnes peut-être qui étaient dans la même situation il y a quelques années et qui vont pouvoir s'entraider. L'objectif de l'ergo, c'est toujours de disparaître, en fait, pour permettre aux gens de trouver leur propre stratégie. Et donc, si on met en place des communautés de gens qui peuvent trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes entre elles, il n'y a plus besoin de nous. Donc on permet à des gens de se rencontrer, on monte des groupes, des assos, enfin des trucs qui permettent aux gens de résoudre leurs problèmes tout seuls.
Alors j'ajoute, dans ce que vous expliquez, on entend aussi qu'être ergo, c'est avoir des compétences annexes qui ne sont pas forcément prévues au programme, par exemple des compétences linguistiques. Donc de parler des langues étrangères, ça semble quelque chose qui peut être très utile, de savoir monter un projet culturel, par exemple, où est-ce que je vais chercher des sous si je veux que les personnes avec lesquelles je travaille aient accès, je sais pas, je dis un séjour à la mer, enfin je dis n'importe quoi, mais du coup, comment je fais pour trouver des sous? Donc c'est-à-dire que des compétences en médiation culturelle, peut-être aussi, j'ai envie que les personnes elles aillent au musée. Donc tout ça, ça demande plein de compétences autres.
Du coup, déjà, on a des unités d'enseignement, notamment l'anglais, du coup, pendant nos 3 ans. Donc effectivement, aussi bien pour ça, mais aussi pour la littérature scientifique, parce que du coup, toute la plupart des articles sont écrits en anglais. Donc il faut lire l'anglais, c'est important. Mais oui, effectivement, on est formé aussi à la conduite de projet. En fait, on est régulièrement, surtout en deuxième année, amené à construire un projet de A à Z. Et du coup, on est évalué grâce à ça.
Ouais. Je peux rajouter en fait que du coup c'est vraiment des compétences qui sont dans les programmes d'ergo et que c'est pas que des compétences annexes. En fait, on est conscient en tant que formateur que ce sont des compétences de base en fait maintenant et que les étudiants doivent maîtriser ces compétences à la fin du diplôme, et je pense qu'ils les ont à la fin du diplôme. Ils font beaucoup de travail en projet et on leur demande de chiffrer, on leur demande d'aller évaluer l'impact écologique des projets, on leur demande d'aller trouver les gens auprès de qui ils vont vraiment demander les sous, on leur demande et ils le font. Et voilà, du coup, c'est des compétences qui sont développées pendant le DE.
Alors, je me permets une dernière question. Premier, après, j'arrête de vous embêter. C'est un point, Alors, je m'excuse par avance de mon pragmatisme fort décevant, mais voilà, qui n'a pas été posé pour le moment. Mais il me semble que la Croix-Rouge, alors vous allez me dire si je me trompe, mais que c'est des scolarités qui ont des frais, qui engagent des frais. Ouais. Et donc, du coup, là, 3 ans d'études intenses, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte de faire cette formation d'ergo et quelle prise en charge existe?
Du coup, pour les 3 ans, chaque année, on débourse du coup 2 300 € grâce à la région. Parce que normalement, du coup, on tourne autour de 9 400 €, mais la région Centre nous aide énormément pour nous, étudiants, pour pouvoir faire notre projet professionnel. En contrepartie, du coup, en 3e année, pour notre stage pré-professionnel dont je parlais tout à l'heure, on doit obligatoirement le faire en région Centre pour développer du coup le métier d'ergo en région Centre. Donc oui, c'est des frais conséquents, mais on a une école de qualité. Enfin, moi, je suis très heureuse d'avoir été formée ici et on a eu beaucoup de chance.
Et je rajouterais aussi qu'on a un énorme avantage sur cette école, c'est qu'on a un centre de simulation avec vraiment des appartements. On a un appartement type de monsieur, madame, tout le monde, qu'on peut retrouver bien évidemment chez tout le monde, et un appartement domotique donc qui est tout adapté, où on peut faire plein de mises en situation. Et ça, c'est vraiment un réel plus pour ensuite, quand on va dans nos stages ou dans notre future pratique, on a moins cette appréhension, ce stress d'être jeté dans le grand bain. Et franchement, toutes les écoles n'ont pas ça. Et du coup, pour, entre guillemets, pour 2300 euros l'année, franchement, c'est un équipement de très haute qualité.
Qui est également financé par la région centre aussi. C'est important de le ressouligner. Nos impôts servent à quelque chose.
Tout à fait.
Sinon, je voulais vous questionner.
Sur une question que j'ai oubliée.
Ah. Attends, j'ai un truc à dire. Et du coup, pour continuer sur les financements, la région centre, qui est vraiment très généreuse, donne des indemnités kilométriques de stage aux étudiants. Je pense que c'est la seule région en France qui fait ça. Donc quand nos étudiants vont en stage, en plus de leurs indemnités de stage, ils ont des indemnités kilométriques qui sont proportionnelles à l'éloignement du coup du lieu de stage par rapport à l'IRFS. Et du coup, c'est de l'argent en plus pour eux qui vraiment est du bonus. Donc c'est un financement pas négligeable pour la plupart des étudiants.
Oui, et ça y est, je me rappelle. Donc vous pouvez être boursier aussi oui. pour financer les études. Et puis, est-ce qu'il y a de l'apprentissage chez les Argos, par exemple?
Alors, on va lancer l'apprentissage. Pour l'instant, on est en phase test. Donc on a vu avec une étudiante pour tester l'apprentissage avec une seule étudiante. Et on va voir comment ça se passe. Donc on ne sait pas si on va reconduire le truc. Enfin voilà,
en phase d'expérimentation.
Ça n'a pas commencé encore. D'accord. Donc on aimerait bien, parce qu'il y a de la demande en fait des terrains. Mmh. Mais voilà, on ne l'a jamais fait. Donc on attend de voir quelles sont les implications pour les étudiants, pour les équipes pédagogiques et puis pour les terrains. Et puis de voir si on le reconduit ou pas les années prochaines.
D'accord.
L'ultime question, et après je me tais jusqu'à la prochaine. Quand on en sortie d'études, c'est quoi le salaire moyen d'un ergot?
Alors, il y a eu le Ségur. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'on peut tourner autour de 1007.
Ouais, alors il y a eu le Ségur de la santé, vous avez peut-être entendu parler de ça.
À peine,
ouais. Bon, du coup, c'est très variable en fonction des postes, en fonction des régions. Ça peut aller de 1003 à plus de 2000 euros. Mais maintenant que le Ségur est passé, dans la fonction publique, c'est entre 1006 et 1007.
Donc, en début de carrière.
Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très chouette pour l'avancée du métier. Mais après ça dépend des conventions, enfin ça dépend vraiment des conditions de travail. Il y a quand même une chose qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui l'ergothérapie c'est un métier qui est sous tension. Il n'y a pas assez d'étudiants qui sortent par an pour remplir tous les postes qui sont vacants. Donc ça veut dire que les étudiants peuvent négocier leur salaire, ils peuvent choisir d'aller aux endroits où il y a une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Donc les employeurs vont devoir sûrement augmenter les salaires pour avoir des ergots s'ils veulent en avoir.
Super. Ouais.
Naïs, est-ce que du coup ça t'a donné, est-ce que ça a apporté des réponses à tes questions et est-ce que maintenant tu es très motivée à faire cette formation dans 2 ans parce que tu es en avance comme tu es en première?
Oui, c'est ça. Oui, franchement, ça m'a donné encore plus d'informations. Je croyais que j'avais le total, mais non, pas du tout. J'en ai encore plus, donc ça tombe bien. Et ça me donne encore plus envie parce que je voulais aller dans filière générale, donc plutôt la médecine, mais finalement, autant rentrer directement en école de ergothérapie si c'est ce que je veux faire.
Même si tu as bien entendu qu'au niveau de la sélection, ce qui est un peu préféré, c'est une expérience entre le bac et l'entrée en école d'ergo, si je ne me trompe pas, Marielle.
Ouais. Hein. On a 4 étudiants par an à peu près qui sortent de Parcoursup directement. D'accord. Mais donc les 28 autres sont plutôt des étudiants qui ont fait quelque chose avant.
Après, si je peux me permettre, c'est vrai que cette maturité, elle est importante. Enfin, moi, je sais qu'en sortant du bac, j'avais pas forcément cette maturité. Et en fait, elle a été nécessaire pour m'aider à comprendre parce que, mine de rien, c'est quand même une formation qui est assez introspective. Donc, c'est important d'avoir une maturité, je trouve, pour ce métier. Voilà.
Ok.
Eh bien, on vous remercie tous pour ces informations. On va passer maintenant à une chronique qui est la vie étudiante.
À l'IRFS.
À l'IRFS.
À tout de suite.
À tout de suite.
Sur Red Cross.
Pour la vie étudiante.